Lorsque Oblonsky lui avait demandé pourquoi il était venu à Moscou, Lénine avait rougi, et s'en voulait d'avoir rougi, mais pouvait-il répondre « Je viens demander ta belle-sœur en mariage ». Tel était cependant l'unique but de son voyage. Les familles Lévin et Chervalsky, deux vieilles familles nobles de Moscou, avaient toujours été en rapport d'amitié. L'intimité s'était resserrée pendant les études de Lévin à l'université de Moscou à cause de sa liaison avec le jeune prince Chervalsky, frère de Dolly et de Kitty, qui suivait les mêmes cours que lui. Dans ce temps-là, Lévin allait fréquemment dans la maison Chervalsky et, quelque étrange que cela puisse paraître, était amoureux de la maison tout entière, spécialement de la partie féminine de la famille. Ayant perdu sa mère sans l'avoir connue et n'ayant qu'une sœur beaucoup plus âgée que lui, ce fut dans la maison Chervalsky qu'il trouva cet intérieur intelligent et honnête, propre aux anciennes familles nobles dont la mort de ses parents l'avait privé. Tous les membres de cette famille, mais principalement les femmes, lui apparaissaient entourés d'un nimbe mystérieux et poétique. Non seulement il ne leur découvrait aucun défaut, mais il leur supposait encore les sentiments les plus élevés, les perfections les plus idéales. Pourquoi ces trois jeunes demoiselles devaient parler français et anglais de deux jours l'un? Pourquoi elles devaient à tour de rôle jouer du piano? Les sons de cet instrument montaient jusqu'à la chambre où travaillaient les étudiants. Pourquoi des maîtres de littérature française, de musique, de danse, de dessin se succédaient dans la maison? Pourquoi, à certaines heures de la journée, les trois demoiselles, accompagnées de Mademoiselle Linon, devaient s'arrêter en calèche au boulevard de la Tcherskoï et sous la garde d'un laquais en livrée et se promener dans leur pelisse de la satin? Dolly en avait une longue, Nathalie une demi-longue et Kitty une toute courte qui montrait ses petites jambes bien faites, serrées dans des bas rouges. Pourquoi ces choses et beaucoup d'autres lui restaient incompréhensibles? Mais il savait que tout ce qui se passait dans cette sphère mystérieuse était parfait, et ce mystère le rendait amoureux. Il avait commencé par s'éprendre de Dolly, l'aînée, pendant ses années d'études. Celle-ci épousa Oblonsky. Il crut alors aimer la seconde, car il sentait qu'il devait nécessairement aimer l'une des trois, sans savoir au juste laquelle. Mais Nathalie eut à peine fait son entrée dans le monde qu'on la maria au diplomate Lvov. Kitty n'était qu'une enfant quand Lévin quitta l'université. Le jeune Chervalsky, peu après son admission dans la marine, se noya dans la Baltique, et les relations de Lévin avec sa famille devinrent plus rares, malgré l'amitié qu'il liait à Oblonsky. Au commencement de l'hiver, cependant, étant venu à Moscou après une année passée à la campagne, il revit les Chervalsky et comprit alors laquelle des trois il était destiné à aimer. Rien de plus simple en apparence que de demander en mariage la jeune princesse Chervalsky. Un homme de 32 ans, de bonne famille, d'une fortune convenable, avait toute chance de passer pour un beau parti. Et vraisemblablement, il aurait été bien accueilli. Mais Lévin était amoureux. Kitty lui paraissait une créature si accomplie, d'une supériorité si idéale, et il se jugeait au contraire si défavorablement qu'il n'admettait pas qu'on le trouvât digne d'aspirer à cette alliance. Après avoir passé 2 mois à Moscou, comme en rêve, rencontrant Kitty chaque soir dans le monde où il était retourné à cause d'elle, il repartit subitement pour la campagne après avoir décidé que ce mariage était impossible. Quelle position dans le monde, quelle carrière convenable et bien définie offrait-il aux parents? Tandis que ses camarades étaient les uns colonels et aides de camp, d'autres professeurs distingués, directeurs de banque et de chemin de fer ou présidents de tribunal comme Oblonsky, que faisait-il, lui, à 32 ans? Il s'occupait de ses terres, élevait des bestiaux, construisait des bâtiments de ferme et chassait la bécasse, c'est-à-dire qu'il avait pris le chemin de ceux qui, aux yeux du monde, n'ont pas su en trouver d'autres. Il ne se faisait aucune illusion sur la façon dont on pouvait le juger, et croyait passer pour un pauvre garçon sans grande capacité. Comment, d'ailleurs, la charmante et poétique jeune fille pouvait-elle aimer un homme aussi laid et surtout aussi peu brillant que lui? Ses anciennes relations avec Kitty, qui, à cause de sa liaison avec le frère qu'elle avait perdu, était celle d'un homme fait avec un enfant, lui semblait un obstacle de plus. On pouvait bien, pensait-il, aimer d'amitié un brave garçon aussi ordinaire que lui, mais il fallait être beau et pouvoir déployer les qualités d'un homme supérieur pour être aimé d'un amour comparable à celui qu'il éprouvait. Il avait bien entendu dire que les femmes s'éprennent souvent d'hommes laids et médiocres, mais il n'en croyait rien et jugeait les autres d'après lui-même, qui ne pouvait aimer qu'une femme remarquable, belle et poétique. Toutefois, après avoir passé 2 mois à la campagne dans la solitude, il se convainquit que le sentiment qu'il absorbait ne ressemblait pas aux enthousiasmes de sa première jeunesse et qu'il ne pourrait vivre sans résoudre cette grande question : serait-il accepté, oui ou non ? Rien ne prouvait, après tout, qu'il serait refusé. Il partit donc pour Moscou avec la ferme intention de se déclarer et de se marier si on l'agréait. Sinon, oh, il ne pouvait imaginer ce qu'il deviendrait. Lévin, arrivé à Moscou par le train du matin, s'était arrêté chez son demi-frère Kochnichev. Après avoir fait sa toilette, il était entré dans le cabinet de travail de celui-ci en se proposant de lui raconter tout et de lui demander conseil. Mais son frère n'était pas seul. Il causait avec un célèbre professeur de philosophie, venu du Kharkov, tout exprès, pour éclaircir un malentendu survenu entre eux au sujet d'une question scientifique. Le professeur était en guerre contre le matérialisme. Serge Korsnichev suivait sa polémique avec intérêt et lui avait adressé quelques objections après avoir lu son dernier article. Il reprochait au professeur les concessions trop larges qu'il faisait au matérialisme, et celui-ci était venu s'expliquer lui-même. La conversation roulait sur la question à la mode : y a-t-il une limite entre les phénomènes psychiques et physiologiques dans les actions de l'homme et où se trouve cette limite ? Serge Ivanitch accueillit son frère avec le sourire froidement aimable qui lui était habituel et, après l'avoir présenté au professeur, continua l'entretien. Celui-ci, un petit homme à lunettes, au front étroit, s'arrêta un moment pour répondre au salut de Lévin, puis reprit la conversation sans lui accorder aucune attention. Lévin s'assit en attendant son départ et s'intéressa bientôt au sujet de la discussion. Il avait lu dans des revues les articles dont on parlait et les avait lus en y prenant l'intérêt général qu'un homme qui a étudié les sciences naturelles à l'université peut prendre au développement de ces sciences. Jamais il n'avait fait de rapprochement entre ces questions savantes sur l'origine de l'homme, sur l'action réflexe, la biologie, la sociologie, et celles qui le préoccupaient de plus en plus, le but de la vie et la mort. Il remarqua, en suivant la conversation, que les deux interlocuteurs établissaient un certain lien entre les questions scientifiques et celles qui touchaient à l'âme. Par moments, ils croyaient qu'ils allaient enfin aborder ce sujet, mais chaque fois qu'ils en approchaient, c'était pour s'en éloigner aussitôt avec une certaine hâte et s'enfoncer dans le domaine des distinctions subtiles, des réfutations, des citations, des allusions, des renvois aux autorités, et c'est à peine s'ils pouvaient les comprendre. « Oh, je ne puis accepter la théorie de Krells, » disait Serge Ivanitch dans son langage éloquent et correct, « et admettre que toute ma conception du monde extérieur dérive uniquement de mes sensations. Le principe de toute connaissance, le sentiment de l'être, de l'existence, n'est pas venu par les sens. Il n'existe pas d'organe spécial pour produire cette conception. Oui, mais Wurst et Kraust et Pripyatsov vous répondront, vous avez la connaissance de votre existence uniquement par suite d'une accumulation de sensations en un mot, qu'elle n'est que le résultat des sensations. Wurst dit lui-même que là où la sensation n'existe pas, la conscience de l'existence est absente. Ah, je dirais au contraire, répliqua Serge Ivanitch. Lévin remarqua encore une fois qu'au moment de toucher au point capital, selon lui, ils allaient s'en éloigner. Et se décida à faire au professeur la question suivante. Dans ce cas, si mes sensations n'existent plus, si mon corps est mort, il n'y a plus d'existence possible. Le professeur regarda ce singulier questionnaire d'un air contrarié et comme blessé de cette interruption. Que voulait cet intrus qui ressemblait plus à un paysan qu'à un philosophe? Il se tourna vers Serge Ivanitch, mais celui-ci n'était pas à beaucoup près aussi exclusif que le professeur et pouvait, tout en discutant avec lui, comprendre le point de vue simple et rationnel qui avait suggéré la question. Il répondit en souriant. Ah, nous n'avons pas encore le droit de résoudre cette question. Nous n'avons pas de données suffisantes, continua le professeur en reprenant ses raisonnements. Non, je prétends que si, comme le dit clairement Pripyatsov, les sensations sont fondées sur des impressions, nous n'en devons que plus sévèrement distinguer ces deux notions. Lévin n'écoutait plus et attendit le départ du professeur. Celui-ci partit. Serge Ivanitch se tourna vers son frère. Je suis content de te voir. Es-tu venu pour longtemps? Comment vont les affaires? Lévin savait que son frère aîné s'intéressait peu aux questions agronomiques et faisait une concession en lui en parlant. Aussi se borna-t-il à répondre au sujet de la vente du blé et de l'argent qu'il avait touché sur le domaine et qu'il possédait indivis. Son intention formelle avait été de causer avec son frère de ses projets de mariage et de lui demander conseil. Mais après cette conversation avec le professeur et en présence du ton involontairement protecteur dont Serge l'avait questionné sur leurs intérêts de campagne, il ne se sentit plus la force de parler et pensa que son frère Serge ne verrait pas les choses comme il aurait souhaité qu'il les vît. Comment marchent les affaires du Selsvaux chez vous? Demanda Serge Ivanitch, qui s'intéressait à ces assemblées provinciales et leur attribuait une grande importance. Bon, je n'en sais vraiment rien. Comment cela se fait-il? Tu ne fais pas partie de l'administration? Non, j'ai renoncé. Je ne vais plus aux assemblées, répondit Lévin. C'est bien dommage, murmura Serge en fronçant le sourcil. Pour se disculper, Lévin raconta ce qui se passait aux réunions du district. Bon, c'est toujours ainsi, interrompit Serge Ivanitch. Voilà comme nous sommes, nous autres Russes. Peut-être est-ce un bon trait de notre nature que cette faculté de constater nos erreurs, mais nous l'exagérons. Nous nous plaisons dans l'ironie qui jamais ne fait défaut à notre langue. Si l'on donnait nos droits, ces mêmes institutions provinciales, à quelque autre peuple de l'Europe, allemand ou anglais, ils sauraient en extraire la liberté, tandis que nous autres, nous ne savons qu'en rire. Et qui fait? Répondit Lévin d'un air coupable. C'était mon dernier essai, j'y ai mis toute mon âme. Je n'y puis plus rien, je suis incapable de. Incapable? Interrompit Serge Ivanitch. Tu n'envisages pas la chose comme il le faudrait. Oh, c'est possible, répondit Lévin accablé. Sais-tu que notre frère Nicolas est de nouveau ici? Nicolas était le frère aîné de Constantin et le demi-frère de Serge. C'était un homme perdu qui avait mangé la plus grande partie de sa fortune et s'était brouillé avec ses frères pour vivre dans un monde aussi fâcheux qu'étrange. Que dis-tu là? S'écria Lévin effrayé. Comment le sais-tu? Prokof l'a vu dans la rue. Ici, à Moscou? Où est-il ? Et Lévin se leva, comme s'il eût voulu aussitôt courir le trouver. Oh, je regrette de t'avoir dit cela, dit Serge en hochant la tête à la vue de l'émotion de son frère. J'ai envoyé quelqu'un pour savoir où il demeurait et lui ai fait tenir sa lettre de change sur Troubine que j'ai payée. Voici ce qu'il m'a répondu. Et Serge tendit à son frère un billet qu'il prit sous un presse-papier. Lévin lut ce billet d'une écriture étrange et qu'il connaissait bien. « Je demande humblement qu'on me laisse la paix. C'est tout ce que je réclame de mes chers frères, Nicolas Lévin. » Constantin resta debout devant Serge, le papier à la main, sans lever la tête. « Il veut bien visiblement m'offenser, » continua Serge, « mais cela lui est impossible. Je souhaitais de tout cœur de pouvoir l'aider, tout en sachant que je n'en viendrais pas à bout. »« Oui, » confirma Lévin, « je comprends, et j'apprécie ta conduite envers lui, mais j'irai le voir. » « Si cela te fait plaisir, vas-y, » dit Serge. « Mais je ne te le conseille pas. Ce n'est pas que je le craigne par rapport à nos relations à toi et à moi, il ne saurait jamais nous brouiller. Mais c'est pour toi que je te conseille de n'y pas aller. Tu n'y pourras rien, enfin au reste, fais comme tu l'entends. Peut-être n'y a-t-il vraiment rien à faire, mais dans ce moment... je ne saurais être tranquille. Je ne te comprends pas, dit Serge, mais ce que je comprends, ajouta-t-il, c'est qu'il y a là pour nous une leçon d'humilité. Depuis que notre frère Nicolas est devenu ce qu'il est, je considère ce qu'on appelle une bassesse avec plus d'indulgence. Tu sais ce qu'il a fait ? Hélas, c'est affreux, affreux, répondit Lévin. Après avoir demandé l'adresse de Nicolas au domestique de Serge Ivanitch, Lévin se mit en route pour aller le trouver, mais il changea d'idée et ajourna sa visite au soir. Avant tout, pour en avoir le cœur net, il voulait décider la question qui l'avait amené à Moscou. Il alla donc trouver Oblonsky, et après avoir appris où étaient les Chervatsky, se rendit là où il pensait rencontrer Kitty. Vers 4 heures, Lévin quitta son izvoshchik à la porte du jardin zoologique et, le cœur battant, suivit le sentier qui menait aux montagnes de glace, près de l'endroit où l'on patinait. Il savait qu'il la trouverait là, car il avait aperçu la voiture de Chervatsky à l'entrée. Il faisait un beau temps de gelée. À la porte du jardin, on voyait, rangés à la file, des traîneaux, des voitures de maître, des izvoshchiks, des gendarmes. Le public se pressait dans les petits chemins frayés autour des izbas décorés de sculptures en bois. Les vieux bouleaux du jardin, aux branches chargées de givre de neige, semblaient revêtus de chasubles neuves et solennelles. Tout en suivant le sentier, Lévin se parlait à lui-même. « Du calme, il ne faut pas se troubler. Que veux-tu, qu'as-tu ? Tais-toi, imbécile !» C'est ainsi qu'il interpellait son cœur. Mais plus il cherchait à se calmer, plus l'émotion le gagnait et lui coupait la respiration. Une personne de connaissance l'appela au passage. Lévin ne la reconnut même pas. Il s'approcha des montagnes. Les traîneaux glissaient, puis remontaient au moyen de chaînes. C'était un cliquetis de ferraille, un bruit de voix joyeuse et animée. À quelques pas de là, on patinait, et parmi les patineurs, il la reconnut bien vite et sut qu'elle était près de lui par la joie et la terreur qui envahirent son âme. Debout auprès d'une dame, du côté opposé à celui où Lénine se trouvait, elle ne se distinguait de son entourage ni par sa pose, ni par sa toilette. Mais pour lui, elle ressortait dans la foule comme une rose parmi des orties, éclairant de son sourire ce qui l'environnait et illuminant tout de sa présence. Oserais-je vraiment descendre sur la glace et m'approcher d'elle, pensa-t-il. L'endroit où elle se tenait lui parut un sanctuaire dont il craignait d'approcher, et il eut si peur qu'il s'en fallut de peu qu'il ne repartît. Faisant un effort sur lui-même, il arriva cependant à se persuader qu'elle était entourée de gens de toute espèce et qu'à la rigueur, il avait bien aussi le droit de venir patiner. Il descendit donc sur la glace, évitant de jeter les yeux sur elle comme sur le soleil, mais de même que le soleil, il n'avait pas besoin de la regarder pour la voir. On se réunissait sur la glace un jour de la semaine entre personnes de connaissance. Il y avait là des maîtres dans l'art du patinage qui venaient faire briller leurs talents, d'autres qui faisaient leur apprentissage derrière des fauteuils avec des gestes gauches et inquiets, de très jeunes gens et aussi de vieux messieurs patinant par hygiène. Tous semblaient à Lévin des élus favorisés du ciel parce qu'ils étaient dans le voisinage de Kitty. Et ses patineurs glissaient autour d'elle, la rattrapaient, lui parlaient même, et n'en semblaient pas moins s'amuser avec une indépendance d'esprit complète, comme s'il eût suffi à leur bonheur que la glace fût bonne et que le temps fût splendide. Nicolas Scherbatsky, un cousin de Kitty, vêtu d'une jaquette et de pantalons étroits, était assis sur un banc, les patins aux pieds, lorsqu'il aperçut Lévin. « Ah ! S'écria-t-il, le premier patineur de la Russie, le voilà ! Es-tu ici depuis longtemps ? Mets donc vite tes patins, la glace est excellente !»« Je n'ai pas mes patins, » répondit Lévin, étonné qu'on pût parler en présence de Kitty avec cette liberté d'esprit et cette audace, et ne la perdant pas de vue une seconde, quoiqu'il ne la regardât pas. Elle, visiblement craintive sur ses hautes bottines à patins, s'élança vers lui du coin où elle se tenait, suivie d'un jeune garçon en costume russe qui cherchait à la dépasser en faisant les gestes désespérés d'un patineur maladroit. Kitty ne patinait pas avec sûreté. Ses mains avaient quitté le petit manchon suspendu à son cou par un ruban et se tenaient prêtes à se raccrocher n'importe à quoi. Elle regardait Lévin qu'elle venait de reconnaître et souriait de sa propre peur. Quand elle eut enfin heureusement pris son élan, elle donna un léger coup de talon et glissa jusqu'à son cousin Scherbatsky, s'empara de son bras et envoya à Lénine un salut amical. Jamais dans son imagination, elle n'avait été plus charmante. Il lui suffisait toujours de penser à elle pour évoquer vivement le souvenir de toute sa personne, surtout celui de sa jolie tête blonde, à l'expression enfantine de candeur et de bonté, élégamment posée sur des épaules déjà belles. Ce mélange de grâce d'enfant et de beauté de femme avait un charme particulier que Lénine savait comprendre. Mais ce qu'il frappait toujours en elle, comme une chose inattendue, c'était son regard modeste, calme, sincère, qui, joint à son sourire, le transportait dans un monde enchanté où il se sentait apaisé, adouci, avec les bons sentiments de sa première enfance. « Depuis quand êtes-vous ici ? » demanda-t-elle en lui tendant la main. « Merci !» ajouta-t-elle en lui voyant ramasser le mouchoir tombé de son manchon. « Moi, je suis arrivé depuis peu hier, c'est-à-dire aujourd'hui, » répondit Lévin, si ému qu'il n'avait pas bien compris la question. « Je voulais venir chez vous, » dit-il, et, se rappelant aussitôt dans quelle intention, il rougit et se troubla. « Je ne savais pas que vous patiniez si bien. » Elle le regarda avec attention, comme pour deviner la cause de son embarras. « Votre éloge est précieux, mais il s'est conservé ici une tradition sur vos talents de patineur, » dit-elle en secouant de sa petite main gantée de noir les aiguilles de pain tombées sur son manchon. « Oui, j'ai patiné autrefois avec passion. Je voulais arriver à la perfection. » « Il me semble que vous faites tout avec passion, » dit-elle en souriant. « Je voudrais tant vous voir patiner. Mettez donc des patins, nous patinons ensemble. Patiner ensemble, est-il possible? Pensa-t-il en la regardant. Ah, je vais les mettre tout de suite, dit-il. Et il courut chercher les patins. Il y a longtemps, monsieur, que vous n'êtes venu chez nous, dit l'homme au patin en lui tenant le pied pour visser le talon. Oh, depuis vous, nous n'avons personne qui s'y entende. Est-ce bien ainsi? Dit-il en serrant la courroie. C'est bien, c'est bien, dépêche-toi seulement, répondit Lévin, ne pouvant dissimuler le sourire joyeux qui, malgré lui, éclairait son visage. Voilà la vie, voilà le bonheur, pensait-il. Mais faut-il lui parler maintenant? Mais j'ai peur de parler. Je suis trop heureux en ce moment, heureux au moins en espérance, tandis que. Ben, il le faut. Arrière toute faiblesse. Lévin se leva, ôta son paletot, et après s'être essayé autour de la petite maison, s'élança sur la glace unie et glissa sans effort, dirigeant à son gré sa course tantôt rapide, tantôt ralentie. Il s'approcha d'elle avec crainte, mais un sourire de Kitty le rassura encore une fois. Elle lui donna la main et ils patinèrent côte à côte, augmentant peu à peu la vitesse de leur course. Et plus ils glissaient rapidement, plus elle lui serrait la main. Oh, j'apprendrai bien plus vite avec vous, lui dit-elle. Je ne sais pourquoi j'ai confiance. Oh, j'ai aussi confiance en moi quand vous vous appuyez sur mon bras, répondit-il, et aussitôt il rougit, effrayé. Effectivement, à peine eut-il prononcé ces paroles, que de même que le soleil se cache derrière un nuage, toute l'amabilité du visage de la jeune fille disparut. Et Lévin remarqua un jeu de physionomie qu'il connaissait bien et qui indiquait un effort de sa pensée. Une ride se dessina sur le front uni de Kitty. Il ne vous arrive rien de désagréable. Dirais-je, je n'ai pas le droit de le demander, dit-il vivement. Pourquoi cela, non? répondit-elle froidement, et elle ajouta aussitôt. Vous n'avez pas encore vu, mademoiselle Linon? Pas encore. Oh, venez la voir, elle vous aime tant. Et qu'arrive-t-il? Je lui ai fait de la peine. Seigneur, ayez pitié de moi. Pensa Lévin tout en courant vers la vieille Française aux petites boucles grises qui les surveillaient de son banc. Elle le reçut comme un vieil ami et lui montra tout son râtelier dans un sourire amical. Ben, nous grandissons, n'est-ce pas? Dit-elle en désignant Kitty les yeux. Et nous prenons de l'âge. Tinibière devient grand, continua la vieille institutrice en riant. Et elle lui rappela sa plaisanterie sur les trois demoiselles qu'il appelait les trois oursons du conte anglais. Vous rappelez-vous que vous les nommiez ainsi? Il avait absolument oublié, mais elle riait de cette plaisanterie depuis 10 ans et s'y tenait toujours. Allez, allez patiner, n'est-ce pas que notre Kitty commence à bien s'y prendre? Quand Lévin revint auprès de Kitty, il ne lui trouva plus le visage sévère. Ses yeux avaient repris leur expression franche et caressante. Mais il lui sembla qu'elle avait un ton de tranquillité voulue et il se sentit triste. Après avoir causé de la vieille gouvernante et de ses originalités, elle lui parla de sa vie à lui. Ne vous ennuyez-vous vraiment pas à la campagne? demanda-t-elle. Non, je ne m'ennuie pas, je suis très occupée, répondit-il, sentant qu'elle l'amenait au ton calme qu'elle avait résolu de garder et dont il ne saurait désormais se départir, pas plus qu'il n'avait su le faire au commencement de l'hiver. Êtes-vous venu pour longtemps? demanda Kitty. Oh, je n'en sais rien, répondit-il sans penser à ce qu'il disait. L'idée de retomber dans le ton d'une amitié calme et de retourner peut-être chez lui sans avoir rien décidé le poussa à la révolte. Comment ne le savez-vous pas? Oh, je n'en sais rien, cela dépendra de vous, dit-il. Et aussitôt il fut épouvanté de ses propres paroles. N'entendit-elle pas ces mots ou ne voulut-elle pas les entendre? Elle sembla faire un faux pas sur la glace et s'éloigna pour glisser vers Mademoiselle Linon, lui dit quelques mots et se dirigea vers la petite maison où l'on ôtait les patins. « Mon Dieu, mais qu'ai-je fait? Seigneur Dieu, aidez-moi, guidez-moi » priait Lévin intérieurement. Et sentant qu'il avait besoin de faire quelques mouvements violents, il décrivit avec fureur des courbes sur la glace. En ce moment, un jeune homme, le plus fort des nouveaux patineurs, sortit du café, ses patins aux pieds, la cigarette à la bouche. Sans s'arrêter, il courut vers l'escalier, descendit les marches en sautant, sans même changer la position de ses bras, et s'élança sur la glace. « C'est un nouveau tour !» se dit Lévin, et il remonta l'escalier pour l'imiter. « Ne vous tuez pas, il faut de l'habitude !» lui cria Nicolas Chervatsky. Lévin patina quelque temps avant de prendre son élan, puis il descendit l'escalier en cherchant à garder l'équilibre avec ses mains. À la dernière marche, il s'accrocha, fit un mouvement violent pour se rattraper, reprit son équilibre et s'élança en riant sur la glace. « Quel brave garçon !» pensait pendant ce temps Kitty en entrant dans la petite maison, suivie de Mademoiselle Linon et en le regardant avec un sourire caressant, comme un frère bien-aimé. « N'est-ce ma faute? J'ai rien fait de mal. On prétend que c'est de la coquetterie. Je sais bien que ce n'est pas lui que j'aime, mais je ne m'en sens pas moins contente auprès de lui. Il est si bon. Mais pourquoi a-t-il dit cela ? » pensa-t-elle. Voyant Kitty partir avec sa mère qui venait la chercher, Lévin, tout rouge après l'exercice violent qu'il venait de prendre, s'arrêta et réfléchit. Il ôta ses patins et rejoignit la mère et la fille à la sortie. « Très heureuse de vous voir, » dit la princesse. « Nous recevons comme toujours le jeudi. Aujourd'hui, par conséquent, nous serons enchantés de vous voir, » répondit-elle sèchement. Cette raideur affligea Kitty, qui ne put s'empêcher de chercher à adoucir l'effet produit par la froideur de sa mère. Elle se retourna vers Lévin et lui cria en souriant « Au revoir !» En ce moment, Stepan Arkadievitch, son chapeau planté de côté, le visage animé et les yeux brillants, entrait en vainqueur dans le jardin. À la vue de sa belle-mère, il prit une expression triste et confuse pour répondre aux questions qu'il lui adressa sur la santé de Dolly. Puis, après avoir causé à voix basse d'un air accablé, il se redressa et prit le bras de Lévin. « Eh bien, partons-nous, je n'ai fait que penser à toi, je suis très content que tu sois venu, » dit-il en le regardant d'un air significatif. « Allons, allons, » répondit l'heureux Lévin qui ne cessait d'entendre le son de cette voix lui disant au revoir et de se représenter le sourire qui accompagnait ses mots. « À l'hôtel d'Angleterre ou à l'Ermitage ?»« Cela m'est égal. »« À l'hôtel d'Angleterre, alors, » dit Stepan Arkadievitch, qui choisissait ce restaurant parce qu'il y devait plus d'argent qu'à l'Ermitage et qu'il trouvait, pour ainsi dire, indigne de lui de le négliger. « Tu as un Isvolchnik ? Tant mieux car j'ai renvoyé ma voiture. » Pendant tout le trajet, les deux amis gardèrent le silence. Lévin pensait à ce que pouvait signifier le changement survenu en Kitty et se rassurait pour retomber aussitôt dans le désespoir et se répéter qu'il était insensé d'espérer. Malgré tout, il se sentait un autre homme, ne ressemblant en rien à celui qui avait existé avant le sourire et les mots « au revoir ». Stepan Arkadievitch composait le menu. « Tu aimes le turbo, n'est-ce pas ? » demanda-t-il à Lévin au moment où ils arrivaient. « Quoi ?» demanda Lévin. « Le turbo. »« Ah oui, 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 j'aime le turbo à la folie. » Lévin lui-même ne put s'empêcher de remarquer en entrant dans le restaurant l'espèce de rayonnement contenu, exprimé par la physionomie, par toute la personne de Stepan Arkadievitch. Celui-ci ôta son paletot et le chapeau posé de côté, s'avança jusqu'à la salle à manger, donnant, tout en marchant, ses ordres au tatar en habit noir, la serviette sous le bras, qui s'accrochait à lui. Saluant à droite et à gauche les personnes de connaissance, qui, là comme ailleurs, le rencontraient avec plaisir, il s'approcha du buffet, prit un petit verre d'eau-de-vie. La demoiselle du comptoir, une Française frisée, fardée, couverte de rubans, de dentelles et de boucles, fut aussitôt l'objet de son attention. Il lui dit quelques mots qui la firent éclater de rire. Quant à Lévine, la vue de cette femme toute composée de faux cheveux et de poudre de riz lui ôtait l'appétit. Il s'en éloigna avec hâte et dégoût. Son âme était remplie du souvenir de Kitty, et dans ses yeux brillaient le triomphe et le bonheur. « Par ici, votre Excellence, ici votre Excellence ne sera pas dérangée, » disait le vieux tatar, tenace et obséquieux, dont la vaste tournure forçait les deux pans de son habit à s'écarter par derrière. « Veuillez approcher, votre Excellence, » dit-il aussi à Lévine, en signe de respect pour Stepan Arkadievitch, dont il était l'invité. Il étendit en un clin d'œil une serviette fraîche sur la table ronde, déjà couverte d'une nappe et placée sous une girandole de bronze. Puis il approcha deux chaises de velours, et, la serviette d'une main, la carte de l'autre, il se tint debout devant Stepan Arkadievitch, attendant ses ordres. Si votre Excellence le désirait, elle aurait un cabinet particulier à sa disposition dans quelques instants. Le prince Galitzin, avec une dame, va la laisser libre. Nous avons reçu des huîtres fraîches. Ah ah, des huîtres ! Stepan Arkadievitch réfléchit. Si nous changions notre plan de campagne, Lévine, dit-il en posant le doigt sur la carte, son visage exprimait une hésitation sérieuse. Mais sont-elles bonnes tes huîtres ? Fais attention. Oh, tes huîtres de Flensbourg, votre Excellence, il n'y en a pas de stand. Bon, passe pour des huîtres de Flensbourg, mais sont-elles fraîches ? Elles sont arrivées d'hier. Eh bien, qu'en dis-tu si nous commencions par des huîtres et si nous changions ensuite tout notre menu ? Oh, cela m'est égal. Pour moi, ce qu'il y a de meilleur, c'est du chichi et de la cacha, c'est-à-dire de la soupe aux choux et du gruau de sarrasin. Mais on ne trouve pas cela ici. Cacha à la russe, si vous l'ordonnez, dit le tartare en se penchant vers Lénine, comme une bonne vers l'enfant qu'elle garde. Non, sans plaisanterie, tout ce que tu choisiras sera bien. J'ai patiné, je meurs de faim. Ne crois pas ? Ajouta-t-il en voyant une expression de mécontentement sur la figure d'Oblonsky, que je ne sache pas apprécier ton menu. Je mangerai avec plaisir un bon dîner. Il manquerait plus que cela. On a beau dire, c'est un des plaisirs de cette vie, dit Stepan Arkadievitch. Dans ce cas, mon petit frère, donne-nous deux, et si c'est trop peu, trois douzaines d'huîtres, une soupe avec des légumes. Printanière, reprit le tartare. Mais Stepan Arkadievitch ne voulait pas lui laisser le plaisir d'énumérer les plats en français et continua. Avec des légumes, tu sais, ensuite du turbot avec une sauce un peu épaisse, puis du roast beef, mais fais attention qu'il soit à point. Un chapon et enfin des conserves. Le tatar, se rappelant que Stepan Arkadievitch n'aimait pas à nommer les plats d'après la carte française, le laissa dire, mais il se donna ensuite le plaisir de répéter le menu selon les règles. « Potage printanier, turbo sauce boire marché, poulard de l'estragon, acédoine de fruits. » Et aussitôt, comme mu par un ressort, il fit disparaître une carte pour en présenter une autre, celle des vins, qu'il soumit à Stepan Arkadievitch. Que boirons-nous ? Oh, ce que tu voudras, mais un peu de champagne, dit Lévine. Comment, dès le commencement? Oh, faites, pourquoi pas? Aimes-tu la marque blanche? Cachet blanc, dit le tartare. Bien, avec les huîtres, ce sera assez. Quel vin de table servirais-je? Oh, du nuit. Non, non, donne-nous le classique Chablis. J'entends. Servirais-je votre fromage? Oui, du parmesan. Peut-être en préfères-tu un autre? Non, cela m'est égal, répondit Lévin, qui ne pouvait s'empêcher de sourire. Le tatar disparut en courant, les pans de son habit flottant derrière lui. 5 minutes après, il était de retour, tenant d'une main un plat d'huîtres et de l'autre une bouteille. Stepan Arkadievitch chiffonna sa serviette, en couvrit son gilet, étendit tranquillement les mains et entama le plat d'huîtres. « Pas mauvaise, dit-il, en enlevant les huîtres de leurs écailles l'une après l'autre, avec une petite fourchette d'argent et en les avalant au fur et à mesure. Pas mauvaise, répéta-t-il en regardant tantôt Lévin, tantôt le tatar d'un œil satisfait et brillant. Lévin mangea les huîtres, quoiqu'il eût préféré du pain et du fromage, mais ne pouvait s'empêcher d'admirer Oblonsky. Le tatar lui-même, après avoir débouché la bouteille et versé le vin mousseux dans de fines coupes de cristal, regarda Stepan Arkadievitch avec un sourire satisfait, tout en redressant sa cravate blanche. Ah, tu n'aimes pas beaucoup les huîtres, dit Oblomsky en vidant son verre. Ou bien tu es préoccupé, hein? Il avait envie de mettre Lévin en gaieté, mais celui-ci, sans être triste, était gêné. Avec ce qu'il avait dans l'âme, il se trouvait mal à l'aise dans ce restaurant, au milieu de ce va-et-vient, dans le voisinage de cabinets où l'on dînait avec des dames. Tout l'offusquait, le gaz, les miroirs, le tatar lui-même. Il craignait de salir le sentiment qui remplissait son âme. Moi, oui, je suis préoccupé. Mais en outre, ici, tout me gêne, dit-il. Tu ne saurais croire combien pour un campagnard comme moi, tout ce milieu paraît étrange. C'est comme les ongles de ce monsieur que j'ai vu chez toi. Oui, j'ai remarqué que les ongles de ce pauvre Glinevitch t'intéressaient beaucoup. Je n'y peux rien, répondit Lévin. Tâche de me comprendre et de te placer au point de vue d'un campagnard. Nous autres, nous cherchons à avoir des mains avec lesquelles nous puissions travailler. Pour cela, nous nous coupons les ongles et bien souvent nous retroussons nos manches. Ici, au contraire, on se laisse pousser les ongles tant qu'ils peuvent pousser. Et pour être bien sûr de ne rien pouvoir faire de ses mains, on accroche à ses poignets des soucoupes en guise de bouton. Stepan Arkadievitch sourit gaiement. Mais cela prouve qu'il n'a pas besoin de travailler de ses mains, c'est la tête qui travaille. C'est possible, néanmoins, cela me semble étrange, de même que ce que nous faisons ici. À la campagne, nous nous dépêchons de nous rassasier afin de pouvoir nous remettre à la besogne. Et ici, nous cherchons, toi et moi, à manger le plus longtemps possible sans nous rassasier. Aussi, nous mangeons des huîtres. C'est certain, reprit Stepan Arkadievitch, mais n'est-ce pas le but de la civilisation que de tout changer en jouissance? Si c'est là ton but, je vaux t'en rester un barbare. Tu l'es bien, va. Vous êtes tous des sauvages dans votre famille. Lévin soupira. Il pensa à son frère Nicolas, se sentit mortifié, attristé, et son visage s'assombrit. Mais Oblomsky entama un sujet qui parvint immédiatement à le distraire. Eh bien, viendras-tu ce soir chez nous, enfin, c'est-à-dire chez les Chervatsky, dit-il en clignant gaiement d'un œil et en repoussant les écailles d'huîtres pour prendre du fromage. Oui, certainement, répondit Lévin, quoiqu'il m'ait semblé que la princesse ne m'invitât pas de bonne grâce. Oh, quelle idée! C'est sa manière, grande dame, répondit Stepan Arkadievitch. Je viendrai aussi après une répétition de chant chez la comtesse Bonine. Comment ne pas t'accuser d'être sauvage? Explique-moi, par exemple, ta fuite de Moscou. Les Chcherbalski m'ont plus d'une fois tourmenté de leurs questions sur ton compte, comme si je pouvais savoir quelque chose. Je ne sais que ceci, c'est que tu fais toujours ce que personne ne songerait à faire. Oui, répondit Lévin lentement et avec émotion, tu as raison. Je suis un sauvage, mais ce n'est pas mon départ qui l'a prouvé, c'est mon retour. Je suis revenu maintenant. Es-tu heureux? Répondit Oblomski en regardant les yeux de Lévin. Pourquoi? Je reconnais à la marque qu'ils portent les chevaux ombrageux et à leurs yeux les jeunes gens amoureux, déclina Stepan Arkadievitch. L'avenir est à toi. Et toi, n'as-tu plus rien devant toi? Non, je n'ai que le présent. Mais ce présent n'est pas tout rose. Qu'y a-t-il? Oh, cela ne va pas. Mais je ne veux pas t'entretenir de moi, d'autant plus que je ne puis t'expliquer tout, répondit Stefan Arkadievitch. Alors, pourquoi es-tu venu à Moscou? Hé, viens desservir, cria-t-il au Tatar. Tu le devines, répondit Lévin en ne quittant pas des yeux Stepan Arkadievitch. Oui, je le devine, mais je ne puis t'en parler le premier. Tu peux par ce détail reconnaître si je devine juste ou non, dit Stepan Arkadievitch en regardant Lévin d'un air fin. Eh bien, que me diras-tu? Demanda Lévin d'une voix qui tremblait. Et sentant tressaillir chacun des muscles de son visage, comment considères-tu la chose? Stepan Arkadievitch but lentement son verre de Chablis, en regardant toujours Lévin. Moi, répondit-il, je ne désire rien autant que cela, rien. Mais ne te trompes-tu pas? Sais-tu de quoi nous parlons? Murmura Lévin, le regard fixé fiévreusement sur son interlocuteur. Tu crois vraiment que c'est possible? Pourquoi ne le serait-ce pas? Vraiment, bien sincèrement? Non, dis tout ce que tu penses. Songe donc si j'allais au-devant d'un refus, et j'en suis presque certain. Mais pourquoi donc? Dit Stepan Arkadievitch en souriant de cette émotion. C'est l'effet que cela me fait. Ce serait terrible, et pour moi et pour elle. Oh, en tout cas, je ne vois là rien de si terrible pour elle. Une jeune fille est toujours flattée d'être demandée en mariage. Les jeunes filles en général, peut-être, mais pas elle. Stefan Arkadievitch sourit. Il connaissait parfaitement les sentiments de Lévin et savait que pour lui toutes les jeunes filles de l'univers se divisaient en deux catégories. Dans l'une, toutes les jeunes filles existantes, ayant toutes les faiblesses humaines en partage, des jeunes filles bien ordinaires. L'autre catégorie composée d'elles seules, sans la moindre imperfection et au-dessus de l'humanité entière. Attends, prends un peu de sauce, dit-il en arrêtant la main de Lévin qui repoussait la saucière. Lévin prit humblement de la sauce, mais ne laissa pas Oblomski manger. Non, non, attends, comprends-moi bien, car c'est pour moi une question de vie ou de mort. Je n'en ai jamais parlé à personne, et je ne puis en parler à un autre qu'à toi. Nous avons beau être très différents l'un de l'autre, avoir d'autres goûts, d'autres points de vue. Je n'en sais pas moins que tu m'aimes et que tu me comprends. Et c'est pourquoi je t'aime tant aussi. Au nom du ciel, sois sincère avec moi. Je ne te dis que ce que je pense, répondit Stepan Arkadievitch en souriant, mais je te dirai plus. Ma femme, une femme étonnante. Et Oblonsky s'arrêta un moment en soupirant pour se rappeler où il en était avec sa femme. Elle a un don de seconde vue et voit tout ce qui se passe dans le cœur des autres. Mais elle prévoit surtout l'avenir quand il s'agit de mariage. Aussi, elle a prédit celui de la Chavskoy avec Brentain. Personne ne voulait y croire et cependant il s'est fait. Eh bien, ma femme est pour toi. Comment l'entends-tu? J'entends que ce n'est pas seulement qu'elle t'aime, mais elle assure que Kitty sera ta femme. En entendant ces mots, le visage de Lévin rayonna d'un sourire bien voisin de l'attendrissement. Elle dit cela? S'écria-t-il. Oh, j'ai toujours pensé que ta femme était un ange. Mais assez, assez parlé, dit-il en se levant. Reste donc assis. Lévin ne tenait plus en place. Il fit deux ou trois fois le tour de la chambre de son pas ferme en clignant des yeux pour dissimuler les larmes et se remit à table un peu calmé. Comprends-moi, dit-il. Ce n'est pas de l'amour. J'ai été amoureux, mais ce n'était pas cela. C'est plus qu'un sentiment. C'est une force intérieure qui me possède. Je suis parti parce que j'avais décidé qu'un bonheur semblable ne pouvait exister. Il n'aurait rien eu d'humain. Mais j'ai eu beau lutter contre moi-même. Je sens que toute ma vie est là. Il faut que cela se décide. Mais pourquoi es-tu parti? Si tu savais que de pensées se pressent dans ma tête, que de choses je voudrais te demander. Écoute, tu ne peux te figurer le service que tu m'as rendu. Je suis si heureux que j'en deviens égoïste, j'oublie tout. Et cependant, j'ai appris aujourd'hui que mon frère Nicolas, tu sais, est ici, et je l'ai oublié. Il me semble que lui aussi doit être heureux. C'est comme une folie. Mais une chose me paraît terrible. Toi qui es marié, tu dois connaître ce sentiment. Nous, déjà vieux avec un passé, non pas d'amour mais de péché, n'est-il pas terrible que nous osions approcher d'un être pur, innocent? N'est-ce pas affreux? Et n'est-il pas juste que je me trouve indigne? Je ne crois pas que tu aies grand-chose à te reprocher. Cependant, dit Lévin, en repassant ma vie avec dégoût, je tremble, je maudis, je me plains amèrement, oui. Que veux-tu? Le monde est ainsi fait, dit Oblonsky. Il n'y a qu'une consolation, celle de cette prière que j'ai toujours aimée. Pardonne-nous selon la grandeur de ta miséricorde et non selon nos mérites. Ce n'est qu'ainsi qu'elle peut me pardonner. Lévin vida son verre et pendant quelques instants, les deux amis gardèrent le silence. Je dois encore te dire une chose. « Tu connais Vronsky ?» demanda Stepan Arkadievitch à Lévin. « Non. Pourquoi cette question ?»« Donne encore une bouteille, » dit Oblonsky au Tatar qui remplissait leur verre. Oui, « Eh bien, c'est que Vronsky est un de tes rivaux. »« Qu'est-ce que Vronsky ?» demanda Lévin, dont la physionomie, tout à l'heure si juvénilement enthousiaste, n'exprima plus que le mécontentement. Vronsky est un des fils du comte Cyril Vronsky et l'un des plus beaux échantillons de la jeunesse dorée de Pétersbourg. Je l'ai connu à Tver quand j'étais au service. Il y venait pour le recrutement. Il est immensément riche, beau, aide-de-camp de l'empereur, il a de belles relations et malgré tout, c'est un bon garçon. D'après ce que j'ai vu de lui, c'est même plus qu'un bon garçon. Il est instruit, intelligent. Oh, c'est un homme qui ira loin. Lévin se rembrunissait et se taisait. « Eh bien, il est apparu peu après ton départ, et d'après ce qu'on dit, cet épris de Kitty. Tu comprends que la mère...
« Pardonne-moi, mais je ne comprends rien, » répondit Lévin en s'assombrissant de plus en plus.
La pensée de Nicolas lui revint aussitôt avec le remords d'avoir pu l'oublier. « Attends donc, » dit Stepan Arkadievitch en lui touchant le bras, tout en souriant. « Je t'ai dit ce que je savais, mais je répète que, selon moi, dans cette affaire délicate, les chances sont pour toi. »
Lévin pâlit et s'appuya au dossier de sa chaise.
« Pourquoi n'es-tu jamais venu chasser chez moi, comme tu me l'avais promis ? Viens au printemps, » dit-il tout à coup.
Il se repentait maintenant, du fond du cœur, d'avoir entamé cette conversation avec Oblonsky. Ses sentiments les plus intimes étaient blessés de ce qu'il venait d'apprendre sur les prétentions rivales d'un officier de Pétersbourg, aussi bien que des conseils et des suppositions de Stepan Arkadievitch. Celui-ci comprit ce qui se passait dans l'âme de son ami et sourit.
« Oh, je viendrai un jour ou l'autre. Mais vois-tu, frère, les femmes sont le ressort qui fait tout mouvoir en ce monde. Mon affaire à moi est mauvaise, très mauvaise, et tout cela à cause des femmes.
Donne-moi franchement ton avis, » continua-t-il en tenant un cigare d'une main et son verre de l'autre.
« Sur quoi veux-tu mon avis ?»«
Voici, suppose que tu sois marié, que tu aimes ta femme, et que tu te sois laissé entraîner par une autre femme. »«
Excuse-moi, mais je ne comprends rien à cela. C'est pour moi comme si, en sortant de dîner, je volais un pain en passant devant une boulangerie. »
Les yeux de Stepan Arkadievitch brillèrent plus encore que de coutume. « Pourquoi pas ? Le pain frais sent quelquefois si bon qu'on ne peut pas avoir la force de résister à la tentation. »
Trêve de plaisanterie, continua Oblonsky. Suppose une femme charmante, modeste, aimante, qui a tout sacrifié, qu'on sait pauvre et isolée. Faut-il l'abandonner maintenant que le mal est fait ? Mettons qu'il soit nécessaire de rompre pour ne pas troubler la vie de famille, mais ne faut-il pas en avoir pitié, lui adoucir la séparation, penser à son avenir ?
Pardon, mais tu sais que pour moi, les femmes se divisent en deux classes, ou pour mieux dire, il y a des femmes et des... Je n'ai jamais rencontré de belles repenties, mais des créatures comme cette Française du comptoir avec ses frisons me répugnent, et toutes les femmes tombées aussi.
Et l'Évangile, qu'en fais-tu ?
Oh, laisse sois tranquille avec ton Évangile. Jamais le Christ n'aurait prononcé ces paroles s'il avait su le mauvais usage qu'on en ferait. C'est tout ce qu'on a retenu de l'Évangile. Au reste, je conviens que c'est une impression personnelle, rien de plus. J'ai du dégoût pour les femmes tombées, comme toi pour les araignées. Tu n'as pas eu besoin pour cela d'étudier les mœurs des araignées, ni moi celles de ces êtres-là.
Oh, c'est commode de juger ainsi. Tu fais comme ce personnage de Dickens qui jetait de la main gauche par-dessus l'épaule droite toutes les questions embarrassantes. Mais nier un fait n'est pas y répondre. Que faire, dis-moi, que faire ?
Ne pas voler de pain frais.
Stepan Arkadievitch se mit à rire. Oh, moraliste ! Mais comprends donc la situation. Voilà deux femmes. L'une se prévaut de ses droits, et ses droits sont ton amour que tu ne peux plus lui donner. L'autre sacrifie tout et ne demande rien. Que doit-on faire ? Comment se conduire ? Mais c'est un drame effrayant.
Si tu veux que je te confesse ce que j'en pense,
Je te dirai que je ne crois pas au drame. Voici pourquoi. Selon moi, l'amour, les deux amours tels que les caractérise Platon dans son banquet, tu t'en souviens, servent de pierre de touche aux hommes. Les uns ne comprennent qu'un seul de ces amours, les autres ne le comprennent pas. Ceux qui ne comprennent pas l'amour platonique n'ont aucune raison de parler de drame. En peut-il exister dans ces conditions? Bien obligé pour l'agrément que j'ai eu. Voilà tout le drame. L'amour platonique ne peut en connaître davantage parce que là tout est clair et pur parce que... À ce moment, Lévin se rappela ses propres péchés et les luttes intérieures qu'il avait eu à subir. Il ajouta donc d'une façon inattendue: « Au fait, peut-être, as-tu raison. C'est bien possible. » Bon, je ne sais rien, absolument rien. Vois-tu, dit Stepan Arkadievitch, tu es un homme tout d'une pièce. C'est ta grande qualité, aussi ton défaut. Parce que ton caractère est ainsi fait, tu voudrais que toute la vie se composât d'événements tout d'une pièce. Ainsi, tu méprises le service de l'État, parce que tu n'y vois aucune influence sociale utile, et que selon toi, chaque action devrait répondre à un but précis. Tu voudrais que l'amour et la vie conjugale ne fissent qu'un, mais tout cela n'existe pas. Et d'ailleurs, le charme, la variété, la beauté de la vie tiennent précisément à des nuances. Lévin soupira sans répondre. Il n'écoutait pas et pensait à ce qui le touchait. Et soudain, ils sentirent tous deux que ce dîner qui aurait dû les rapprocher, bien que les laissant bons amis, les désintéressait l'un de l'autre. Chacun ne pensa plus qu'à ce qui le concernait et ne s'inquiéta plus de son voisin. Oblomski connaissait ce phénomène pour en avoir fait plusieurs fois l'expérience après dîner. Il savait aussi ce qui lui restait à faire. L'addition ! Cria-t-il. Et il passa dans la salle voisine, où il rencontra un aide-de-camp de connaissance, avec lequel la conversation s'engagea aussitôt sur une actrice et sur son protecteur. Cette conversation soulagea et reposa Oblomski de celle qu'il avait eue avec Lévin. Son ami l'obligeait à une tension d'esprit qui le fatiguait toujours. Quand le tatar eut apporté un compte de 28 roubles et des copecs, sans oublier le pourboire, Lévin, qui, en campagnard qu'il était, se serait épouvanté en temps ordinaire de sa part de 14 roubles, n'y fit aucune attention. Il paya et retourna chez lui pour changer d'habit et se rendre chez les Cherbatsky, où son sort devait se décider.